Économie, finances, affaires, entrepreneuriat. Francis Gosselin.
Bonjour Francis.
Salut Mario, comment vas-tu?
Ça va bien. Une entreprise québécoise, une entreprise de Terrebonne qui est visée par une enquête aux États-Unis de la Security Exchange Commission?
Oui, effectivement. Puis c'est une entreprise, donc Loop Industries, qui est une entreprise donc qui est ici, qui est inscrite à la bourse Nasdaq Global Markets, qui aurait fait donc qui aurait fait certaines manipulations, on pourrait dire, comptables. La raison pour laquelle ça m'a intéressé, Mario, c'est que Investissement Québec a participé notamment à une des rondes de financement à hauteur de 4,6 millions. Ce qui est assez particulier avec cette entreprise-là, Loop Industries, c'est qu'ils ont, ils détiennent donc un brevet pour une technologie qu'ils appellent révolutionnaire, mais en fait, ils ont toujours pas gagné un dollar. Donc, c'est totalement spéculatif, là, si tu veux savoir.
C'est quoi leur secteur? Qu'est-ce qu'ils veulent faire de si révolutionnaire, là?
Ben, c'est du recyclage de bouteilles de plastique, là, tu sais, les bouteilles Coca-Cola, les bouteilles d'eau, etc. Donc, c'est certain que c'est un marché, bon, évidemment, en ce moment, très en vogue là, pour sa dimension environnementale. Et en plus, ben, ils promettent que le résidu, donc ce qu'ils vont produire là, en recyclant, va être de très haute qualité. Donc, va pouvoir être un entrant dans le procédé de fabrication de d'autres plastiques à un niveau beaucoup supérieur à la norme actuelle. Donc, le PDG, là, Daniel Solomita, il fait valoir qu'à l'époque, où les faits allégués là, ont lieu, ils étaient comme n'importe quelle petite start-up, tu sais, en train de lever des fonds, ils savaient pas trop ce qui se passait. Ça reste qu'il y a eu l'utilisation là, d'une dizaine de sociétés écrans dans des paradis fiscaux avec des gens qui sont pas nommés, bref, ça est un petit peu un petit peu ombrageux, ouais. Et donc, comme l'entreprise, évidemment, est cotée là, maintenant en bourse, ben ça fait en sorte que la Securities and Exchange Commission se penche sur le dossier et que la bourse.
Ça, c'est vraiment la police des entreprises cotées en bourse aux États-Unis.
C'est un peu l'équivalent de l'autorité des marchés financiers, mais on peut deviner, là, puis avec tout le respect que j'ai pour l'AMF, là, que la Securities and Exchange Commission, quand ils se fâchent, ils y mettent les moyens. Là. Donc, effectivement, la transaction là, en cause, ils ont appelé ça frauduleux. Là. Donc, c'est vraiment pas, ils mangent vraiment pas leurs mots. Et l'objectif, ça aurait été de cacher l'origine des fonds qui pourraient possiblement venir de sources un peu moins propres. Mais encore une fois, tout ça, c'est des allégations pour l'instant. J'ai hâte d'en savoir un petit peu plus sur la véracité de ces éléments-là dans les prochaines semaines.
Une évaluation de l'évitement fiscal des grandes entreprises, de combien ça peut représenter?
C'est une nouvelle que plusieurs médias québécois ont repris aujourd'hui, Mario. On parle de 30 milliards de dollars à l'échelle canadienne qui auraient été un peu évités, contournés par les grandes entreprises canadiennes. Donc, on parle pas là des particuliers ou des PME. On parle vraiment des grandes entreprises qui ont une valorisation de supérieure à 2 milliards de dollars. Ils auraient évité 30 milliards d'impôts là, en une seule année fiscale. Et ce qui est étonnant, en fait, Mario, c'est que ce montant-là, il y a toujours un peu de stratagème là, quand on est dans ces grandes sociétés-là, mais c'est le montant a doublé depuis 2020. Donc, faut croire que les comptables et les fiscalistes là, des grandes sociétés deviennent de plus en plus intelligents pour un peu contourner la loi fiscale canadienne. C'est l'Organisme canadien pour une fiscalité équitable là, qui a dévoilé une étude aujourd'hui là, pour un peu montrer là, ce manque à gagner là de l'État. 30 milliards, là, c'est quand même pas des petits montants, Mario, là, à l'échelle canadienne. Donc, ça semble être quelque chose sur lequel peut-être et M. Trudeau, mais aussi notre nouveau premier ministre du Québec, M. Legault, là, pourrait se pencher dans les prochains mois et les prochaines années pour que chacun paye sa juste part.
Ouais. Et finalement, le nouveau développement aujourd'hui dans l'affaire entre Twitter et l'acheteur potentiel Elon Musk.
Effectivement, ben là, Musk, on se rappelle, avait fait une offre sur Twitter pour 44 milliards de dollars. Il avait le financement. Là, cette fois-ci, c'était pas un leurre, là, contrairement à une autre fois d'avant. Mais donc, il a essayé de se retirer de la transaction. Il y a une poursuite contre poursuite. Donc, évidemment, les derniers mois là, ont été très mouvementés. Ce qu'on a appris aujourd'hui, c'est que, en fait, la juge qui est chargée là, d'arbitrer le dossier a demandé aux deux parties de s'asseoir aujourd'hui. Là, donc, en fait, c'est en fin de soirée. Excuse-moi, pour essayer d'arriver à une entente et selon plusieurs, ça pourrait que ça soit, ça y arrive. Là. Le cours de l'action Twitter a bondi aujourd'hui là, de presque 20% là, en quelques heures seulement, à un point tel que la bourse a suspendu en fait la transaction, les échanges sur ce titre-là, parce qu'ils ont peur évidemment que ça crée là, beaucoup de turbulence dans les marchés, sans trop qu'on sache exactement ce qui va en être. Mais toi, au fond de toi,
tu penses qu'Elon Musk va finir propriétaire de Twitter?
Je pense qu'il y a un enjeu, il y a deux enjeux. Il y a un enjeu de valorisation. Mario, Monsieur Musk avait proposé $54 par action. L'action, ce matin, elle se transigeait à $40. Là, elle a bondi à 47-48 là, en séance. Mais bon, ça reste surpayé là, pour une entreprise. Puis l'autre élément, c'est toute la question de la gestion interne de Twitter qui est évidemment mise en cause là, par Monsieur Musk. Est-ce qu'il y a beaucoup de faux comptes? Est-ce que
Mais ça, c'est pour ça qu'il voulait plus le payer le 54. Là, il disait il y a trop de faux comptes. Twitter vit avec ces faux comptes-là et nous dit pas. Tu sais, nous, on se rend compte que les faux comptes rapportent pas les revenus, là, tu sais, ils ont pas la valeur.
Exact.
Mais ça, est-ce que ça pourrait faire baisser le prix de vente?
Je pense deux choses. La première, c'est que je pense que M. Musk avait vraiment l'intention d'acheter Twitter. Je pense pas qu'il était un stunt. Je pense pas qu'il voulait faire ça là, pour s'attirer de la publicité. Il en a bien assez de toute façon. Je pense qu'il a mis un chiffre sur la table. À mon avis, là, reparlons-en plus tard cette semaine quand on aura les faits, mais ce que M. Musk pourrait finalement convenir, c'est peut-être d'un montant moindre. Parce que je pense pas qu'il souhaite véritablement se retirer autant qu'il souhaite avoir un prix qui est plus convenable et plus juste pour cette transaction-là. Donc, on va voir, ça va se résoudre peut-être aujourd'hui, peut-être demain, ou peut-être que ça va finalement aller en cours, là, effectivement. Mais ça reste une affaire à suivre. Puis comme les montants en cause sont comme très, très, très importants, et comme Twitter reste une plateforme significative là, pour les médias, pour les politiciens, je pense que c'est intéressant de continuer à voir là, comment ça se passe, puis est-ce que ça tombe entre les mains de l'homme le plus riche de la planète, effectivement.
Francis, ouais, merci beaucoup.
Bonne journée.
À demain.